Paroles d'écriture, émission mensuelle animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Et si de l'amour on ne savait rien, tel était le thème prévu pour ce soir. Seulement, voici. Un événement est arrivé cette semaine, la mort de Jean-François Mattei, philosophe connu en France et à l'étranger, l'un sans doute des plus grands philosophes français contemporains, qui nous a quittés par surprise à 73 ans. Il était né en Algérie en mars 41, il est décédé à Marseille le lundi 24 mars. Je l'avais accueilli pour une émission le 19 avril 2013 sur le thème de la barbarie à l'humanisme repensé. Puis il avait apporté son témoignage lors d'une émission consacrée à Vincent-Paul Tocoli. Enfin, il était en septembre dernier l'un des trois intervenants avec Paul Charby, le président remarquable de l'association Arts, Sciences et Pensées à Montsartou, qui organise en particulier le grand colloque chaque année en septembre, et François Lupu, que nous connaissons par ailleurs. Il était donc parmi nous pour esquisser ce qu'allait être le colloque de 2014 qui va porter sur le thème de la complexité. Ce colloque, je vous le rappelle, se fait en collaboration avec Agora Côte d'Azur. Jean-François était un pilier de ce colloque. Il était un intervenant très apprécié. Alors, tenant compte de ce départ, j'ai modifié l'émission pour lui rendre hommage. Et Frédéric Franger, auteur en particulier du remarquable ouvrage « Oser la vie à deux », interviendra en avril. Cette émission conserve sa structure pour la deuxième partie, mais la première partie va être consacrée à Jean-François. Commençons donc par rendre hommage à Jean-François. Pour cela, nous allons recourir à des citations d'Albert Camus et à des extraits, à des commentaires que Jean-François a fait dans un livre remarquable chez Erol, citation de Camus expliquée, utilisable non seulement pour les étudiants du secondaire, mais pour tous les adultes qui veulent découvrir la pensée de Camus et aussi découvrir à travers ses commentaires Jean-François. Pour cela, nous avons fait appel à une adolescente en première L qui lira les citations de Camus. J'en ai retenu 9, nous verrons si nous pouvons tenir le cap, et je lirai les commentaires de Jean-François. Bonjour Anna, et merci d'accepter en studio de lire ces citations d'Albert Camus.
Merci à vous, je suis très honorée et ça me touche beaucoup, ayant connu Jean-François, qui était un homme vraiment bon, à l'écoute, et parfois plein d'humour, et surtout très cultivé. Et je pense, en tout cas j'espère que Jean-François serait ravi de ce choix, pour lui rendre hommage. C'est vrai que j'aurais aimé l'avoir comme professeur. Enfin.
Alors commençons, Anna. Commençons par la première citation.
Oui. Sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Lettre à Louis Germain, 19 novembre 1957, le premier homme, 1994.
Commentaire de Jean-François. Pupille de la nation, fils d'une femme de ménage illettrée, enfant dans un milieu pauvre d'un faubourg d'Alger, il n'aurait jamais dû entrer au collège. Mais son instituteur, Louis Germain, qui avait décelé les possibilités de l'enfant, vint chez lui pour convaincre sa famille de lui faire passer le concours pour entrer en secondaire. C'est ainsi que lors de l'obtention de son prix Nobel, Camus s'est souvenu de son maître et après sa mère, sa première pensée fut pour Louis Germain qu'il remercia d'avoir tendu la main au petit enfant pauvre.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le fera jamais. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Discours de Suède, 10 décembre 1957.
Commentaire de Jean-François. Chaque nouvel homme se pense comme le premier homme. Chaque nouvelle génération se pense comme la première génération. Mais les horreurs politiques du XXe siècle ont été si violentes et les désillusions morales si fortes que les hommes de l'âge de Camus ont renoncé à refaire le monde. Ils ont essayé de faire en sorte qu'il ne se défasse pas.
Mais c'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. Les justes, 1950.
Camus a mis en scène l'amour qui est l'ultime stade de l'existence humaine, après ceux de l'absurde et de la révolte. On pourrait dire aussi que c'est son premier stade, car l'amour du monde est offert à l'homme à sa naissance comme un don gratuit.
Pour moi, j'avais envie d'aimer comme on a envie de pleurer. Amour de vivre, l'envers et l'endroit, 1937.
L'une des nouvelles de l'envers et de l'endroit porte un titre qui résume la pensée de Camus. Amour de vivre. Car il balance sans cesse entre un amour démesuré pour la création et un profond désespoir de ne pas en comprendre le sens. Quant à l'amour de vivre, il découvre sa fragilité, sa fugacité. L'envie d'aimer, alors, se colore au soir d'une envie de pleurer.
Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Nos Atipaza, Nos 1939.
Il peut paraître étrange que Camus, le penseur de la mesure qu'il emprunte à la Grèce, encense un amour démesuré, c'est-à-dire infini. La gloire du monde est cette dispensation gratuite d'un amour qui ne connaît aucune mesure dans l'excès de son don.
Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. Carnet 1, 1937.
Le droit d'aimer sans mesure est tellement infini qu'il s'identifie chez Camus au devoir d'aimer, qui fonde l'éthique de Camus.
Trouver une démesure dans la mesure. Carnet 2, février 1938. La vraie folie de démesure meurt ou crée sa propre mesure. L'homme révolté, 1951.
La pensée n'a que faire d'une raison trop convaincue de cette démonstration.
Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. La pensée du midi, l'homme révolté, 1951.
De la découverte de l'absurde à l'offrande de l'amour, en passant par le sursaut de la révolte, le cycle de l'existence se ferme et tout est bien. Tant qu'il est fidèle à la lumière qui l'éclaire comme à la joie qui l'étreint, le monde reste à jamais son premier et son dernier amour.
Chaque être rencontré, chaque odeur de cette rue, tous mes prétextes pour aimer sans mesure. La mort dans l'âme, l'envers et l'endroit, 1937.
Il le trouve ici et maintenant, dans l'expérience immédiate de la rencontre. Camus la retrouve dans chaque être qu'il croise, dans chaque odeur de rue, dans chaque émotion qui l'envahit. L'amour éprouvé se mesure alors à son absence de mesure. Merci Anna pour ces citations.
Je vous en prie.
Voilà Jean-François, en ton hommage. Tu restes pour nous un très très grand philosophe. Pour certains amis, et dans l'un et l'autre cas, dans le temps, à jamais. Ton départ est une perte immense pour l'intelligence, le goût et l'esprit français. Les médias ces temps-ci l'ont mis en valeur. Merci pour ton œuvre, qui constitue une nourriture de qualité. Et retenons, chers auditeurs, en particulier parmi tous les messages que nous laisse Jean-François, celui-ci. Il écrit « Tous les grands penseurs du XIXe siècle étaient persuadés que le siècle à venir serait celui du progrès et de la raison. » Il fut celui du goulag, des camps de concentration, d'une barbarie incommensurable. Et le philosophe continue. Alors, la barbarie est bien plus proche de notre quotidien que nous aimons à le penser. Et notre civilisation ferait bien d'affronter ses propres démons plutôt que de toujours chercher le monstre chez les autres. Voilà. Alors, nous allons continuer par, la voix de Jean-François. Il était venu ici rendre hommage à Vincent Paul, et Vincent Paul pose une question à Jean-François, et Jean-François lui répond. Écoutons. Bonsoir Vincent Paul.
Bonsoir Bernard, bonsoir Michel, bonsoir Jean-François.
Bonsoir Vincent Paul. Quelle surprise.
Oui, on voulait te la faire la surprise, c'est fait.
Alors quelle question Vincent Paul?
Eh bien c'est au professeur de philosophie politique contemporaine. Bon, cher Jean-François, que tu enseignes à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence depuis 40 ans, je crois.
Tout à fait.
C'est à lui que je m'adresse. Oui. Je vais aller lentement parce que la question semble longue, mais en fait, tu vas reconnaître des préoccupations. Jean-François, n'as-tu pas le sentiment qu'il se confirme peu à peu que la conception de la dignité humaine qui découle en même temps de la sagesse grecque que tu connais bien de la révélation judéo-chrétienne que je connais pas mal, et de la philosophie des Lumières que nous partageons, toi et moi, que cette dignité humaine n'est plus reconnue chez nous, ni comme un bien commun culturel, ni comme une référence éthique.
Jean-François.
Quant à l'espérance, naturellement, quand elle est de moins en moins reconnue comme une référence commune, ce sont bien toujours les plus petits qui en font les frais. Alors la question, en fait, après ce préambule, c'est que dans ce profond changement, et voilà la question politique, les citoyens peuvent-ils et doivent-ils encore attendre des lois civiles qu'elles défendent une vision de l'homme partagée par tous, même si cela doit être dans une différence culturelle et non dans un vague conformisme social. Je t'écoute, Jean-François.
Merci pour cette question qui touche le cœur du sujet. Effectivement, on peut se demander si les citoyens d'aujourd'hui, en France ou dans d'autres pays, au moins occidentaux, peuvent encore attendre de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui ont la parole, dans les médias en particulier, mais aussi bien sur Internet, quelle que soit la dispersion que permet Internet, on peut se demander si on accorde encore crédit à ce que l'on appelait l'humanisme et la dignité de l'homme, qui était, comme cela a été très justement dit, issu à la fois de la sagesse grecque, de l'enseignement des juifs et des chrétiens, qui s'est cristallisé au XVIIIe siècle avec la montée des Lumières, c'est-à-dire d'une rationalité qui, à la fois dans le domaine scientifique et dans le domaine politique et éthique, visait l'universel. Autrement dit, ce que nous partagions en Europe, et en particulier en France, terre de l'universel, terreau même de l'universel, c'était une certaine vision de l'homme que l'on a qualifiée d'humanisme, et qui se porte très mal aujourd'hui, puisque la plupart des grands penseurs, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale en France, ont mis à mal l'humanisme au profit de structures, au profit de l'histoire, le structuralisme, l'historicisme, comme si le fait de se référer à une dignité de l'homme mettait en cause d'autres principes qui seraient plus généraux ou plus universels. Je n'en prendrai aucun exemple.
Je touche une de tes préoccupations permanentes.
Pardon ?
Je crois que je touche là aussi une de tes préoccupations permanentes.
Oui, je ne prendrai qu'un exemple. Récemment, Pierre Berger, qui est suffisamment connu pour son engagement dans le mariage pour tous, a dit qu'il était partisan de la gestation pour autrui, pour une raison dont on se demande si elle est raisonnable, à savoir qu'il ne voyait aucune différence entre le fait de louer un ventre pour une femme et de louer des bras pour un travailleur.
Voilà.
Lorsque la femme est réduite à la location d'un ventre, comme on parle de la location d'une chambre dans un hôtel ou la location d'une voiture chez Hertz ou chez Avis, c'est réduire la femme et donc l'être humain en général, quel que soit son sexe, tout simplement à la dimension matérielle d'un support social ou économique. Il faudrait faire des enfants, donc on va louer des ventres comme on louerait d'autres choses.
C'est l'instrumentalisation totale.
C'est l'instrumentalisation totale d'une éthique qui est devenue de plus en plus, comme on le dit aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, une éthique procédurale. C'est-à-dire
Absolument.
Qu'aujourd'hui, ce qui relève de la morale ou de la politique relève essentiellement de procédures administratives ou de procédures techniques ou de procédures logiques ou mathématiques, sans que l'on s'intéresse à la finalité de la chose ou au sens de l'action humaine. Et donc ça me paraît extrêmement grave, parce que dans ce cas-là, la dignité humaine disparaît totalement.
Tout à fait.
Jean-François, merci. Vincent Paul, merci de cette question qui permet de progresser le débat sur la barbarie. voilà, Jean-François. Et nous allons garder cette exhortation que tu écrivais peu de temps avant de partir. Tu nous invitais à dépasser le nihilisme, à en passer la ligne, à remettre les pas sur le chemin de la pensée, à fixer l'étoile et à s'abandonner à l'élan de la source, à répondre à l'appel de cette chose éternellement énigmatique, la pensée. Cette pensée qui n'est pas le savoir et pour qui le rôle du philosophe est essentiel. Nous y reviendrons dans un instant. Et si de l'amour on ne savait rien, thème de cette émission que nous allons reprendre dans la deuxième partie, va se faire tout naturellement. Vous avez vu les passages que Jean-François commentait sur l'amour dans Albert Camus. Eh bien, nous allons nous poser la question, un an après où nous avions consacré 3 émissions à ce thème, et si de l'amour on ne savait rien, oui, que savons-nous de l'amour, dans tous ses aspects, dans sa complexité, dans son intensité et sa durée? Étrange ce savoir si faible, alors que l'amour est la plus belle aventure humaine. Face à cette défaillance, on se réfugie souvent dans quelques phrases, choc, comme la mesure de l'amour et d'aimer sans mesure. En fait, cela n'est pas suffisant. De plus, savoir n'est pas penser, comme nous le rappelle Jean-François et antérieurement Albert Camus, le savoir ne pense pas, le savoir ne sait pas, nous dit la philosophie. Alors d'où vient la pensée? Nietzsche dit, l'origine d'une pensée reste cachée, et cela reste vrai malgré l'évolution des neurosciences. Et Albert Camus disait, penser c'est avant tout vouloir créer le monde. Et si par hasard, penser c'était aussi avant tout vouloir créer l'amour? Nous allons nous retrouver pour la deuxième partie dans un instant. Je voudrais, chers auditeurs, vous annoncer l'émission de lundi prochain qui portera sur l'éducation tout au long de la vie et nous aurons 2 invités exceptionnels. Nous aurons le président du Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie qui est une instance rattachée à l'UNESCO et André Jourdan qui est un chercheur en sciences d'éducation, un pédagogue dont les livres tout à fait remarquables sont relativement peu connus en France, alors qu'ils valent, celui par exemple Apprendre à apprendre, vaut 3 euros. Et André me disait ce matin, nous préparions l'émission de lundi, que son livre se vendait avant tout en Chine. Quel exemple pour le 50e anniversaire de la reconnaissance par De Gaulle de la Chine, de ce souvenir qui circule encore en Chine, des livres sur le devenir de l'éducation que nous connaissons à peine en France. À tout à l'heure, chers auditeurs, ne quittez pas l'antenne. Nous nous retrouvons dans un instant. Parole d'écriture, ce soir, et si de l'amour on ne savait rien. Cette deuxième partie va être consacrée cette fois à ce thème. Nous sommes quittés il y a un instant en reparlant de Camus, en nous interrogeant. Il disait « Penser, c'est avant tout vouloir créer le monde ». Je posais la question « Est-ce que aimer, n'est-ce pas avant tout créer l'amour ?» Alors nous allons en débattre de 3 façons différentes. Nous avons fait appel à des auditeurs et nous avons reçu beaucoup de courriers. Alors nous allons en lire quelques-uns, pas tous, mais nous allons lire quelques très beaux textes. Et puis ensuite, j'ai fait appel à Jacques Salomé. Malheureusement, Jacques Salomé est très malade en ce moment. Il réside dans le Luberon, donc il fait partie aussi de notre région. Je le dis à tous les auditeurs qui sont hors de la région, pour montrer la richesse de la région PACA et comment Agora Côte d'Azur est présent non seulement sur la Côte d'Azur, mais sur l'ensemble de la région PACA. Donc Jacques Salomé, nous allons l'entendre dans un message que nous avons reçu de lui. Et puis Anna a choisi parmi toute la musique de ce soir la tendresse de Bourvil que nous entendrons à travers tous les autres textes. Alors nous allons peut-être pas commencer par écouter cette musique de Nausicaa.
Beep!
Nous allons commencer par un texte qui nous a envoyé par une auditrice. Je dois dire, chers auditeurs, que les femmes ont été beaucoup plus prolixes dans les documents envoyés que les hommes. C'est à croire que les hommes ont peur d'exprimer leur tendresse ou peur de parler de l'amour. Point d'interrogation, nous en parlerons dans un instant. Voici ce texte d'une femme qui tient à garder l'anonymat. Heureux celui qui de l'amour connaît l'explication, la raison, le pourquoi. Heureux aussi celui qui assume le mystère et l'indéfinissable de l'amour. L'amour est une alchimie qui frappe à votre porte quand elle s'ouvre et qui fait de soi un être aimé, désiré et attendu et offre à l'autre la réciprocité. Il existe l'amour de l'enfance, celui du petit garçon qui regarde sa petite camarade de maternelle, qui partage avec elle son goûter de 4 heures. C'est l'amour pur et innocent. Puis, il y a l'amour adolescent, celui qui éveille les sens, en quête de sens et l'imagination. Puis le premier amour, celui qui refait le monde, l'idéalise et pense ne pas connaître l'usure de l'habitude. Puis l'amour adulte succède, celui de la création de la vie à deux, là arrivent les enfants. L'édifice se stabilise ou se rompt, et c'est le temps qui fait son œuvre. Notre vie fait surgir un, voire deux divorces, voire plus. Ou elle surprend l'amour vivant par le départ de l'autre vers d'autres cieux, ou encore l'amour traverse le temps. L'amour de la plus belle partie de la vie est, écrit cette femme, je le crois, le dernier. Elle ajoute de façon très belle, il rejoint le premier, l'expérience en plus. Ce n'est plus le goûter que l'on échange, c'est la vie, les idées, la tendresse et le souffle de joie qui ranime la création d'une nouvelle vie. L'amour du dernier parcours, celui qui a tout à gagner et plus rien à perdre. Mais il ne peut être que si au-delà des savoirs indispensables, de la connaissance produite, nous sommes capables de penser l'amour pour l'incarner et pour cela de nous penser, j'allais dire avec un E, et de nous penser avec un A. Merci, inconnu, pour ce très beau texte. Un autre texte vient d'Agnès. En fait, elle a choisi un extrait d'un livre que je vous recommande beaucoup, « Lettre AD » d'André Gors. La note de synthèse qui accompagnera cette émission recensera tous les ouvrages qu'on nous a suggérés, une quinzaine environ. André Gors écrit dans ce texte ceci. Tu vas avoir 82 ans, tu as rôtissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. Je pense qu'après ce texte, la tendresse de Bourvil va de soi et nous allons essayer de l'écouter maintenant.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs.
Voilà cette merveilleuse chanson de Bourvil que nous allons faire suivre de l'entretien avec Jacques Salomé, qui vient de sortir un nouveau livre que je vous recommande beaucoup. Écoutons Jacques nous parler.
J'ai choisi de regrouper des textes et des témoignages sur l'amour parce que je crois qu'il y a beaucoup de malentendus sur l'amour. D'abord, une trop grande idéalisation, avec un ensemble comme ça de croyances autour de l'amour, et puis dans la réalité au quotidien, dans le vécu des hommes et des femmes d'aujourd'hui, c'est un paradoxe l'amour. C'est à la fois une des choses les plus recherchées, c'est-à-dire la capacité d'aimer et de recevoir également de l'amour, et certainement une des choses les plus maltraitées, un des phénomènes humains les plus maltraités. C'est ce qui explique d'ailleurs que deux couples sur quatre aujourd'hui se séparent, et se séparent non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne sont pas arrivés à se proposer une relation de croissance mutuelle dans la durée, une relation dans laquelle on donnerait le meilleur de l'autre, pardon, on donnerait le meilleur de soi pour rencontrer le meilleur de l'autre. Alors dans ce livre, d'abord, je démystifie ce que j'appelle les pseudo-amours. Qu'est-ce que c'est un pseudo-amour ? C'est quand je dis à l'autre « je t'aime » et que ça veut dire « aime-moi ». Ça veut dire que je n'aime pas la personne, je mets du côté du cœur, voyez-vous, j'aime l'amour que cette personne a pour moi. C'est terrible ça, je suis dans un amour de consommation. 30% des couples, 30% des couples, il y en a un qui aime et l'autre qui se laisse aimer. Un autre pseudo-amour, c'est l'amour de déplacement, l'amour de compensation. J'attends de toi, ma chérie, que tu m'aimes comme ma mère aurait dû m'aimer, ou comme un précédent amour aurait dû m'aimer. Donc, le bel amour qu'elle va me donner, je ne le reçois même pas. Il tombe, ça c'est terrible, parce que celui qui aime, il a l'impression qu'il aime dans le vide. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 77 ans, la meilleure image que j'ai de l'amour, c'est l'image musicale. Ça veut dire que l'amour est semblable à une, je le mets du côté du cœur, voyez-vous, à une note de musique qu'il y aurait chez moi, une note de musique qu'il y aurait chez ma brune, et quand ces deux notes se rencontrent, et qu'elles s'harmonisent, qu'elles vibrent ensemble, et que ça fasse du Mozart, ou du Schumann, ou du Jean-Jacques Goldman, si on aime Jean-Jacques Goldman, ça c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, de rencontrer au moins une fois dans leur vie ce type d'amour, un amour qui vibre ensemble. C'est la meilleure image que j'ai de l'amour aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans ce livre, je tente de transmettre, d'abord à mes enfants, je suis le père de 5 enfants, tous mes livres d'ailleurs, c'est dans leur direction, parce que nos enfants, c'est notre part d'éternité, donc j'essaie de leur transmettre ce que je crois être le meilleur de l'amour. Démystifier les pseudo-amours, sentir que si on aime, il faut nourrir cet amour, l'entretenir au quotidien. Donc, ne pas s'endormir, parce que souvent dans le mariage, ben ça y est, on est marié, on s'installe confortablement. Non, non, ça doit être réinventé tous les jours. En commun. Restimuler chez ceux qui vont me lire, hein, homme ou femme, c'est 3 choses au moins. Apprendre à s'aimer, car si je ne m'aime pas, j'aurai du mal à aimer l'autre. Ça, c'est le fondement, apprendre à s'aimer. Pas d'un amour narcissique, égocentrique, moi je suis le plus beau. Non, un amour de bienveillance, un amour de respect, respect de soi-même, etc. Deuxièmement, apprendre que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. Donc, vivez-le au présent, ne passez pas à côté, ne remettez pas demain. Combien j'entends des couples, on travaille 9 heures par jour, etc., on tient un commerce, mais à la retraite, ah non, à la retraite, ça risque d'être trop tard. Apprendre à vivre l'amour au présent. Et ce que j'appelle surtout un amour en réciprocité. C'est pour ça qu'il faudrait ajouter un qualificatif chaque fois qu'on parle d'amour, le don d'amour. Ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai à donner. Est-ce qu'elle a quelque chose à me donner qui va se rencontrer? J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, la troisième chose, ce n'est pas l'amour qui maintient ensemble deux êtres, c'est la qualité de la relation. Donc, et je m'adresse aux hommes parce que, attention, 73% des divorces sont demandés par les femmes. C'est les femmes qui font bouger la communication. Je vois mes trois filles, par exemple, elles se sont toutes séparées à un moment donné, toutes. Elles ont tenté, reconstruit des couples. Voilà. Et elles sont actuellement, au moins pour trois d'entre elles, les trois, dans des relations qui apparemment tiennent la route. Parce qu'elles ont appris, elles ont tenté d'apprendre à la partenaire à mieux communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. Mettre en commun.
Merci Jacques, meilleure santé et continue de voir ce don de parler de l'amour comme un psychosociologue que tu es, mais aussi avec tant de poésie. Nous allons continuer et dans tous les textes que nous avons reçus, nous en avons choisi un dernier parce que le temps malheureusement est là. Anna, voulez-vous le lire ?
Avec plaisir. Dis-moi amour, qu'es-tu ? Qu'est-ce que l'amour ? Question éternelle qui restera posée jusqu'à la fin des temps. Que de livres sur toi, amour, que d'intenses moments, que de tragiques expériences. Ce matin à l'aube, une fois de plus, je te pose la question. Dis-moi, amour, qui es-tu ? C'est écrit d'hier. Quand on aime quelqu'un pour le physique, cela relève plus de l'attirance. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, cela relève plus de l'admiration. Quand on aime quelqu'un dans l'intimité, cela relève plus de l'attachement. Quand on aime et que l'on ne sait pas pourquoi on aime, cela relève probablement de l'amour. Quand on aime et qu'il y a tout cela et ce qui est au-delà, cela devient source potentielle d'amour à co-créer. Puis-je aller plus loin ? Oui. J'ose écrire ce qui suit. Sans l'autre, je ne suis pas. Je ne nais pas à moi-même. Je n'existe pas en plénitude. Et réciproquement. S'il y a cela non en dépendance, mais en indépendance, dans l'interdépendance, alors l'amour est accouchement. L'amour est mise en œuvre de tout notre être rationnel poétique, artistique, avec sa folie. L'amour est ce qui permet de toucher l'invisible et les limites de l'autre et en résonance de soi. L'amour est musicalité de chaque être et de deux êtres. Est-ce suffisant ? Non. Chemin faisant, éclaire-moi. Poursuivant mon chemin, j'ai questionné les proverbes et citations de la sagesse asiatique. Toujours en recherche de l'amour, j'ai trouvé. Bouddha. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Mais Confucius dit « L'expérience est une lanterne attachée à notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. » Proverbe chinois. Celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Proverbe mongol. Pour bâtir haut, il faut creuser profond. Proverbe tibétain. Même si les paroles n'ont pas de dents, elles peuvent briser en morceaux le cœur d'un homme. Si tu es sans amour, tu ne rencontreras pas d'amour en retour. Que retenir ? Que s'aimer et produire sa propre source d'amour est une condition irremplaçable. Que se faire exiger de travailler en profondeur. Que sans folie, je ne parviendrai pas à la sagesse. Que l'éveil se nourrit d'expérience, de connaissance et de méditation. Que des paroles peuvent briser le cœur. Apport appréciable, mais encore. Un ami, Jean-Claude, me met lors d'un dialogue sur une piste. Longueur d'onde. Et si l'amour était convergence intense, et la même longueur d'onde entre deux êtres, en tout, Alors les parasites ne s'opposeront jamais au retour de la même longueur d'onde. Plus, ils donnent à cette longueur d'onde une saveur unique. L'amour ne peut pleinement s'analyser, encore moins se disséquer. Il ne peut que partiellement se comprendre. C'est une musique qui vient de l'offrande de soi pour s'unir dans le merveilleux envol vers l'autre, pour l'autre, avec l'autre. Dans la réciprocité et la spécificité. Alors le jus, le tu, s'envoie de plénitude par le nous. Alors, vivre l'amour.
Merci Anna, vous avez choisi comme musique pour prolonger ce texte la Barcarolle d'Hoffmann, je crois,
oui.
Que nous allons entendre maintenant. Il nous faudrait continuer ces textes reçus. Jacqueline, spécialiste des oliviers, avec Gilles, votre compagnon, vous nous avez envoyé un très beau texte que nous mettrons dans la note de synthèse. Martine, vous nous avez adressé un texte triste sur votre déception des hommes, trop souvent égoïste, selon vous, par rapport aux femmes. Je laisse à chaque auditeur le soin d'apprécier. Il y a tant de textes encore à lire, nous les mettrons autant que faire se peut dans la note de synthèse encore une fois. Et puis, je voudrais, avant de terminer cette émission, vous conseiller le spectacle de Gérard Philippe Céleste à Cannes à 20h30 samedi. Gérard Philippe, nous l'avons reçu dans cette émission. C'est un très très beau texte. Je vous encourage à y aller. C'est derrière, j'allais dire, la gare, à l'endroit, Anna.
À l'espace Mimon.
Voilà, qui se trouve, je crois, au foyer des jeunes travailleurs, 20h30, samedi soir, vous le regretterez pas, le banc, une très très belle expression. Et puis je vous donne rendez-vous pour lundi soir sur l'éducation tout au long de la vie avec deux spécialistes. Bonsoir chers auditeurs et très bon week-end.